RFI 15h ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Grégoire Morelli.
Le président américain, partisan d'un nettoyage total de la bande de Gaza et d'un déplacement temporaire ou à long terme des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Nouvelle déclaration de Donald Trump qui répond ainsi au souhait de l'extrême droite israélienne de recoloniser Gaza. Nous serons aussi en Inde dans cette édition. Le pays fête aujourd'hui sa fête nationale. Un défilé spectaculaire a été organisé pour commémorer l'adoption de la Constitution en 1950. À suivre également ces macabres découvertes au Mexique. Les autorités ont mis à jour plusieurs charniers dans le nord du pays. Il s'agit d'une zone proche de la frontière américaine, connue pour être une route empruntée par les migrants. Enfin, à 2 semaines du sommet mondial sur l'IA organisé à Paris, la France fixe ses objectifs en la matière. Nicolas Feldman du service économie du RFI viendra nous parler des ambitions tricolores sur l'IA en fin de journal. Ce sont des déclarations fracassantes de Donald Trump sur la situation au Proche-Orient. Le président américain se dit partisan d'un nettoyage total de la bande de Gaza et d'un déplacement temporaire ou à long terme des Palestiniens vers l'Égypte ou la Jordanie. Des propos qui, je vous le disais, répondent aux souhaits des alliés d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, partisan d'une recolonisation de l'enclave. Écoutez à ce sujet l'analyse de Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée Moyen-Orient.
C'est une déclaration qui est, du point de vue du droit international, absolument aberrante, évidemment. Sauf que venant d'un personnage qui est président des États-Unis, ça pose plein de questions. Est-ce qu'il est en capacité de le faire? Ce qui est sûr, c'est que ça rejoint les positions de la droite, de l'extrême droite israélienne, qui depuis très longtemps rêve en fait d'un vaste transfert de population palestinienne vers l'Égypte pour les uns, vers la Jordanie pour les autres. Et donc ce projet, il est dans la tête de beaucoup de dirigeants israéliens. Donc pour eux, évidemment, c'est un effet d'aubaine extraordinaire. Du côté du monde arabe, évidemment, pour les Égyptiens et les Jordaniens, c'est tout à fait inacceptable pour mille raisons, et la plus évidente, c'est la sécurité de l'Égypte et de la Jordanie en particulier. Donc il n'est pas question qu'ils acceptent, et en même temps, je serais tenté de dire que tout est possible, notamment avec l'Égypte, parce que l'Égypte est très largement dépendant des États-Unis.
Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée Moyen-Orient, c'était au micro de Daniel Valo. Forte tension à la frontière nord d'Israël avec le Liban. L'armée israélienne a ouvert le feu aujourd'hui sur des habitants du sud Liban qui tentaient de revenir dans leur village. Au moins 15 morts et 83 blessés sont à déplorer selon un nouveau bilan du ministère libanais de la Santé. Et puis sachez que le ministre des Affaires étrangères iranien est arrivé à Kaboul aujourd'hui. Abbas Araghchi est le plus haut responsable de la République islamique à se rendre en Afghanistan depuis la prise de pouvoir par les talibans. Il a rencontré son homologue afghan et doit s'entretenir avec le vice-premier ministre. Téhéran et Kaboul sont deux pays voisins séparés par une longue frontière de plus de 900 kilomètres. Et depuis le retour au pouvoir des talibans, le flux de migrants afghans vers l'Iran a significativement augmenté. C'est aujourd'hui que l'Inde célèbre sa fête nationale. À cette occasion, un défilé spectaculaire a été organisé pour commémorer l'adoption de la Constitution en 1950 et aussi montrer la toute-puissance de New Delhi. Chaque année, des millions de patriotes se réunissent. C'est un reportage signé Léa Ojal.
Une foule en liesse acclame sa nation. Des militaires défilent à pied sur des véhicules et même des chameaux. Drapeau indien en main, Kushal Joshi s'est levé à l'aube pour assister à cette fête nationale qu'il attend tous les ans avec impatience.
C'est mon pays et je suis vraiment heureux d'habiter là. Tout est incroyable ici, encore plus d'ailleurs lors de la fête nationale. Déjà quand j'étais petit, je rêvais de venir ici.
Dans l'immense rassemblement, Rota Gil s'est maquillé aux couleurs de l'Inde. Pour cet ingénieur de 35 ans venu en famille, le défilé militaire est l'occasion de montrer la toute-puissance de son pays.
On peut voir toutes les armes, les avions de chasse. C'est un grand jour pour moi d'assister de si près à cette fête. J'ai attendu plus de 15 ans pour venir ici.
Comme le veut la tradition, l'Inde invite chaque année des dirigeants mondiaux à assister à ces célébrations du jour de la République. Pour cette édition, l'invité d'honneur est le nouveau président indonésien Prabowo Subianto. L'occasion pour New Delhi de se positionner comme l'une des principales puissances militaires de la région. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
56 corps trouvés dans des fosses communes au Mexique. Ces derniers jours, les autorités du pays ont découvert des dizaines de charniers dans le nord, une zone qui est proche de la frontière américaine et qui est également connue pour être une route empruntée par les migrants. Et cette zone, elle est largement contrôlée par les groupes armés, Marine Le Bègue.
Les cadavres et restes d'ossements sont apparus les uns après les autres durant toute la semaine, au fur et à mesure que les autorités mexicaines découvraient de nouvelles fosses communes, 38 au total, toutes sur le même terrain, appartenant aux bras armés d'un cartel connu dans le Chihuahua. Ces découvertes macabres se rajoutent aux 12 corps découverts en décembre dernier dans la même zone frontalière avec les États-Unis, où le trafic de drogue, d'armes et de personnes est monnaie courante et les groupes armés bien installés. Donald Trump leur a d'ailleurs déclaré la guerre le jour même de son investiture. Le président américain veut placer les cartels mexicains sur la liste des organisations terroristes, permettant ainsi à l'armée américaine d'agir sur le territoire mexicain en cas de besoin. Mais cette qualification n'est pas vue d'un bon œil par la présidente mexicaine. Chacun doit combattre les cartels depuis son propre territoire, a-t-elle lancé à l'intention de Donald Trump cette semaine lors de l'une de ses conférences de presse matinales. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
On reste sur le continent américain. Le Brésil a réclamé ce samedi des explications à Washington à propos, je cite, du traitement dégradant de migrants illégaux brésiliens lors de leur expulsion par les États-Unis. Les faits en question concernent un vol en provenance donc des États-Unis et arrivé ce vendredi à Manaus, c'est dans le nord du Brésil. Selon le gouvernement, 88 Brésiliens se trouvaient dans cet avion et l'un des passagers a décrit à l'AFP des conditions de vol très dures, affirmant ne pas avoir pu manger ou boire, avoir été pieds et poings liés et ne pas avoir eu le droit de se rendre aux toilettes. Dans le reste de l'actualité, jour de vote ce dimanche en Biélorussie, la population est appelée à élire son président. Mais comme c'est le cas depuis plusieurs décennies maintenant, une large partie de la communauté internationale dénonce un processus électoral qui n'est ni libre ni équitable. Alexandre Loukachenko, à la tête du pays depuis 30 ans, devrait être reconduit pour un 7e mandat consécutif à la tête de ce pays aux frontières de l'Europe et considéré comme un satellite de la Russie de Vladimir Poutine. Alexandre Loukachenko qui, par ailleurs, a appelé ce dimanche les manifestants sortis dans la rue en 2020 pour contester sa précédente réélection à se repentir tout en rappelant que les autorités les surveillaient. Je vous le disais en titre, une intelligence artificielle plus durable encadrée par une gouvernance internationale au service de l'intérêt général. À 2 semaines du sommet mondial sur l'IA organisé à Paris, la France fixe ses objectifs. L'envoyé spécial d'Emmanuel Macron, Anne Bouvreau, en détaille les grandes lignes dans une interview à la Tribune du dimanche. Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour Grégoire.
C'est d'abord une première annonce, la création d'une fondation censée mettre l'IA au service de l'intérêt général.
Oui, fondation qui doit mettre à disposition des chercheurs toute une série de données d'intérêt général, données qui seront aussi accessibles à moindre coût aux startups et un peu plus chères pour des acteurs privé. Alors dans le domaine de la santé par exemple, cela doit permettre de faire avancer la recherche. L'une des promesses de l'IA, c'est peut-être un jour de pouvoir concevoir des vaccins contre le cancer. Pour financer cette fondation, Paris compte lever 2,5 milliards d'euros en 5 ans. 500 000 euros vont être mis sur la table dès cette année.
Nicolas, la France veut aussi profiter de ce sommet pour incarner avec l'Europe une troisième voie face à la Chine et aux États-Unis.
Oui, en réunissant à Paris une coalition de pays engagés pour une intelligence artificielle durable. On le sait, les centres de données utilisés pour faire tourner ces intelligences artificielles sont très énergivores. C'est pourquoi la France veut promouvoir une IA conforme aux objectifs de développement durable. Autre ambition, Paris espère parvenir à un accord pour une gouvernance mondiale de l'IA. Mais cette course à l'intelligence artificielle, c'est aussi une question d'argent. Et avec ses 20 milliards d'euros investis chaque année, l'Europe est encore loin, très loin de ses concurrents. L'annonce du méga-projet Stargate est venue le rappeler cette semaine. Les États-Unis et des entreprises privées comptent investir 500 milliards de dollars en 4 ans.
Merci à vous, Nicolas Fellman du service économie de RFI, pour toutes ces précisions. Il nous reste encore un tout petit peu de temps pour un court mot de sport. En tennis, il a gardé son titre, et oui, c'est le doublé pour l'Italien Yannick Sinner, vainqueur de l'Open d'Australie face à Alexander Zverev. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain journal, ce sera d'ici 50 minutes, mais d'ici là, vous le savez, l'information continue en tout temps, en tout lieu, sur notre site internet et notre application Pure Radio.